Vola a mis au service de l'illustrateur les grands moyens économiques que lui donnait sa position de marchand de tableaux. Et je dois dire que c'est tout à l'honneur de Vola, comme ce sera plus tard à celui d'Aimé Marthe, de ne pas avoir lésiné. Il a mis à la disposition des peintres vraiment tous les moyens. Vous savez que Vollard, à la fin de sa vie, pendant l'unique voyage qu'il a fait aux États-Unis, disait aux Américains stupéfaits, c'est plus difficile de faire un livre que de construire une ville. Et c'est vrai, Vollard mettait quelquefois 17, 20 ans à réaliser un livre, et tout à fait à perte. Là, il n'y a aucun doute que ces livres ne lui ont rien rapporté, lui ont coûté beaucoup d'argent. Les livres de Vollard ont été très lents à se vendre, au moins au début. Comme l'avaient été, par exemple, les premiers livres de Lautrec ou de Redon. Tout ça, ça n'avait très peu d'amateurs. Il a vraiment fait des livres admirables, aussi bien avec Bonnard qu'avec Picasso, qu'avec Rouault. Son Dufy est très beau aussi, sur un texte un peu insignifiant. Mais
Le Verlaine aussi, parallèlement, illustré par Bonnard.
Ça, c'est admirable, oui. C'est un des plus beaux livres modernes. Mais enfin, c'est tellement célèbre que je n'ose plus en parler. Mais il y a vraiment un accord là, entre la sensualité de Verlaine et celle du peintre.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Les 30 années qui précédèrent la guerre de 14 furent en Europe, et tout particulièrement en France, des années d'une richesse culturelle et artistique incroyable. Peinture, musique, poésie, littérature, sculpture, découvertes scientifiques, tout laissait croire à l'apogée de la civilisation occidentale. Et avant que le rêve se fracasse dans la boue des tranchées, tous les heureux du monde, comme l'a écrit Henry James, semblaient vivre une fête permanente dans la recherche du beau et du plaisir des sens. À Paris, alors centre du monde, entre deux expositions universelles, le marché de l'art explose. Le marchand Ambroise Vollard, qui ouvrira sa galerie rue Lafitte en 1895, y fera découvrir, y compris outre-Atlantique, Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso et les Nabis. Mais au départ, la passion de Vollard, c'est la littérature et la poésie. Et à côté de la vente de tableaux qui le fait vivre, il éditera tout au long de sa vie plus de 40 livres d'art illustrés par les plus grands artistes. Des livres qui coûtent une fortune à réaliser. Papier vélin, typographie soignée, lithographie dont les pierres seront effacées après les tirages limités. Certains bourgeois de l'époque entretenaient des danseuses. Vollard, lui, se ruinait pour ses éditions d'art. Parmi celles-ci, la plus célèbre, parue en 1900, tirée à seulement 200 exemplaires, fut parallèlement réédition du recueil de poésie érotique que fit paraître Verlaine en 1889, 5 ans avant sa mort. Et c'est à Bonnard qu'il demandera d'illustrer les vers du pauvre Lélian. Les éditions Hazan rééditent aujourd'hui en fac-similé ce livre exceptionnel avec une présentation de l'historien de l'art Stéphane Guégan. Bonsoir Stéphane Guégan.
Bonsoir Cathy Neva.
Rééditer ce livre aujourd'hui, c'est aussi une sorte de défi parce qu'il faut là aussi soigner énormément la typographie, la présentation, l'édition. Est-ce qu'il y a justement une clientèle pour cela, plus large que celle du temps de Vollard, même si le livre coûtera moins cher aujourd'hui évidemment?
Je crois qu'il y a des amateurs pour ces livres exceptionnels, notamment parce que ce qu'un éditeur appellerait le bas de gamme va disparaître au profit du web. Et les livres illustrés, les livres qui rendent hommage à la culture du livre, vont survivre. Et notamment ces livres qui remettent en circulation des chefs-d'œuvre du livre, de la typographie, de l'illustration. Votre document de départ était merveilleux.
C'est François Chapon qui est un expert
Chapon,
en matière de livres d'art.
François Chapon, bien sûr, qui connaissait ça mieux que tout le monde et qui a bien mis en évidence le rôle de Vollard dans l'édition d'art et dans le livre d'artiste, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et il avait raison d'insister sur le fait que les livres de Vollard s'étendent de Bonnard, dont il était le marchand par ailleurs, à Picasso dans les années 30. On a fini par oublier que Vollard avait largement survécu à la guerre de 14 dont vous parliez, qui est effectivement une rupture. Et en 1900, si j'ose dire, au moment clé de cette belle époque, cette fête de la chair qui est parallèlement, qui est aussi d'ailleurs une célébration de l'amour, pas simplement de l'amour charnel, eh bien tombe à pic.
Alors Stéphane Guégan, il faut quand même revenir aux origines de ce texte et de cette édition. En fait, ce sont 42 poèmes érotiques que Verlaine a fait édicter d'abord sous le manteau, enfin certaines parties sous le manteau, et puis ensuite en 1889, il a décidé de les rassembler, et c'est son éditeur, Léon Vanier, qui a sorti ce texte, qui commençait par des méchancetés à l'égard de sa femme. En fait, il y avait un peu de tout là-dedans.
Oui, un peu de tout. Un peu de tout. C'est le résumé de sa vie. On est en 1889, il a 45 ans. Et il est de cette génération qui est tombée dans Baudelaire à l'âge de l'adolescence. Il a été du Parnasse dans les années 1860, ce mouvement poétique qui réagit contre le lyrisme, l'emphase, pour aller vers quelque chose de plus objectif. Il publie à la fin du Second Empire deux recueils un peu rocailles, un peu érotiques, les poèmes saturniens et surtout les Fêtes Galantes, livre que lira le jeune Rimbaud avant de faire la connaissance de Verlaine. Et il épouse, un tout petit peu avant, quelques mois avant la guerre franco-prussienne et avant la Commune, il épouse cette Mathilde Mauvais, qui est une femme d'ailleurs exceptionnelle, puisque Louise Michel est là au mariage, elle est témoin du mariage. Et avec Mathilde, il va former un couple un peu sulfureux, un couple à éclipse aussi, bien sûr. Ce qui est formidable avec Verlaine, c'est qu'il l'a dit lui-même, il met l'intimité de sa vie dans les mots, et il révolutionne de cette manière-là la poésie. La poésie est moins formelle avec Verlaine, elle est plus intime, elle est plus directe aussi, elle est plus déhanchée très tôt. Et après avoir connu ce que nos auditeurs savent peut-être, c'est-à-dire cette aventure terrible et en même temps formidable avec Rimbaud, après avoir connu la prison, il retourne à Dieu. Et parallèlement à son œuvre chrétien, il publie en 1889, parallèlement précisément, et dans parallèlement, il recueille des textes anciens, les fameux « Amis » de 1867, poème lesbien, publié par Poulet Malassi, l'éditeur des Fleurs du Mal, et des poèmes de prison. Bref, il fait de parallèlement une sorte de portrait chinois de son parcours et de son esthétique.
Alors justement, ce texte ami, ce recueil de poèmes qui avait été édité sous le manteau, parce que quand même, il fallait éviter les foudres de la censure à l'époque, ce sont des poèmes qui marquent la fascination de Verlaine pour les amours lesbiennes. On écoute un extrait de ces poèmes, c'est « Sur le balcon ».
Les amis sur le balcon. Toutes deux regardaient s'enfuir les hirondelles. L'une pâle aux cheveux de jais et l'autre blonde et rose. Et leur peignoir léger de vieille blonde vaguement serpentait nuages autour d'elles. Et toutes deux avec des langueurs d'asphodèles, tandis qu'au ciel montait la lune molle et ronde, savouraient à longs traits l'émotion profonde du soir et le bonheur triste des cœurs fidèles. Tels, leurs bras pressants, moites, leur taille souple, couple étrange qui prend pitié des autres couples, tels, sur le balcon, rêvaient les jeunes femmes. Derrière elles, au fond du retrait riche et sombre, emphatique comme un trône de mélodrame et plein d'odeur, le lit des fées s'ouvrait dans l'ombre.
Stéphane Guégan, excusez-moi, mais je vais dire une horreur. Ça me fait vraiment penser à l'univers de David Hamilton, ce qui n'est pas mon préféré.
Non, là, je vous suis pas. Je pense plutôt à la rencontre du monde de Valérie Larbeau et effectivement d'un esprit plus satanique. C'est ça, l'éros de Verlaine. C'est pas simplement une provocation. Et d'ailleurs, je pense que il avait souhaitait lui-même une illustration qui aurait ressemblé à celle de Bonnard. Il a réfléchi à l'illustration de son livre. Il n'a pas connu, bien sûr, le livre de Vollard. Non, c'est pas David Hamilton, dans la mesure où, malgré l'atmosphère un peu rêveuse, un peu gazée, C'est une poésie beaucoup plus franche, comme il le dit à Félicien Rops, beaucoup plus sincère. Il dit qu'il a voulu faire un livre orgiaque, mais pas mélancolique, mais pas sadique non plus. On est dans un entre-deux, comme le poème des amis qu'on vient d'entendre, entre la légèreté, légèrement rocaille comme ça, et puis la pointe un tout petit peu plus acérée, et il aime ça, il aime que le vers balance, il aime que le vers se vaporise. Par ailleurs, on vient d'entendre Les Amis de 1867, dans Parallèlement, il y a des poèmes plus tardifs, qui sont beaucoup plus crus, et qui jouent avec une forme d'obscénité parfois.
Et puis, alors, il faut rappeler, ce livre paraît en 1889, aucun problème de censure. Alors ça, c'est assez surprenant, parce qu'on se fait tous une idée de cette époque, avec les femmes avec des corsets, les messieurs jaquettés, et là, le livre, ben, il sort, et il n'y a pas de problème.
Il pensait que le livre susciterait des objections, comme il le dit à son éditeur, il n'en fut rien. C'est là où on voit d'ailleurs l'évolution des mœurs. Vous parliez de cette exception française des années 1884-1914. Nous représentons le pays le plus riche du monde de ce point de vue-là, le plus libre. Et tout le monde vient à Paris, les Américains, les Anglais, les femmes d'ailleurs étrangères découvrent en France une autre forme de liberté dont elles ne jouissent pas chez elles. Et Verlaine, entre les amis de 1867, publié à Bruxelles, sous le manteau, et la publication en 89 de Parallèlement, effectivement, on voit que la Troisième République est beaucoup plus tolérante que la fin du Second Empire.
Alors dans ce recueil, Stéphane Guégan, il y a bien sûr le souvenir sulfureux de Rimbaud. Il y a un poème absolument extraordinaire qui s'appelle « Leti et Erabundi ». Il est trop long pour qu'on le passe intégralement, mais il faut quand même en écouter une petite partie.
Les courses furent intrépides, comme aujourd'hui le repos pèse, par les steamers et les rapides, que me veut cet atome obèse. Nous allions, vous en souvient-il, voyageurs où ça disparut, filant léger dans l'air subtil, deux spectres joyeux on eût cru. Car les passions satisfaites, insolemment, outre mesure, mettaient dans nos têtes des fêtes, et dans nos sens que tout rassure, tout. La jeunesse, l'amitié, et nos cœurs, à que dégager des femmes prises en pitié et du dernier des préjugés, laissant la crainte de l'orgie et le scrupule au bon ermite, puisque quand la borne est franchie, Ponsard ne veut plus de limite. Entre autres blâmables excès, je crois que nous bûmes de tout, depuis les plus grands vins français, jusqu'à ce pharo, jusqu'au stout, en passant par les eaux de vie qu'on cite comme redoutables, l'âme au septième ciel ravie, le corps plus humble sous les tables.
Stéphane Guégan, on vient d'écouter le début de Leti et Erabundi qui rappelle les amours de Verlaine et de Rimbaud. Ils ont été ensemble de 1871 à 1875, donc juste après la guerre et la commune. Ça a été, tout le monde connaît cette période d'errance, de violence, de beuverie, d'orgie. Et là, dans ce poème, il y a le souvenir d'un amour homosexuel. Or, c'est le seul interdit que s'est imposé Verlaine dans ce recueil érotique. Il y a des allusions, mais il n'y a pas de description. Ça, bon, c'était impossible.
Oui, c'était impossible. Le livre serait tombé sous le coup de la loi. D'ailleurs, les allusions homosexuelles qui sont assez nombreuses dans Parallèlement et finalement assez déchiffrables, n'entre pas non plus dans l'illustration de Bonnard. Il traite l'homosexualité masculine par le saphisme. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir ces effets de transfert chez Bonnard. Oui, Verlaine et Rimbaud ont eu leur saison, qui ne fut pas simplement en enfer. La vie était un festin, dit Rimbaud à propos de Verlaine, qui est son aîné. Un célèbre tableau du musée d'Orsay les réunit. Vous savez, c'est le coin de table de Fantin-Latour. Ils sont l'un à côté de l'autre. Tableau d'ailleurs qu'ils reverront tous deux à Londres. Le tableau avait été montré en Angleterre au début des années 70. Alors, ils partagent mille choses. Les plaisirs clandestins, tous les plaisirs, l'alcool, la poésie, le sexe. Une certaine nostalgie aussi pour la fraternité de la commune. Ils rencontrent après la commune, à Londres et ailleurs, des communards. Pas toujours reluisant d'ailleurs, et parfois il déchante un peu. Mais il y a cette révolte qui doit se jouer sur tous les terrains. Et à l'évidence, Parallèlement est aussi une manière pour Verlaine de se retourner vers cet épisode de sa vie dont il ne s'est pas guéri. C'est le grand moment. Il a beaucoup aimé Mathilde, il a beaucoup aimé les femmes, il était vraiment un bisexuel complet, mais Rimbaud, c'est bien sûr quelque chose qu'on n'oublie pas. Et je crois qu'il dit ce voyageur où ça a disparu. Il ne sait pas très bien où il est. Et ne l'oublions pas, c'est aussi Verlaine qui fixe définitivement la réputation de Rimbaud. Rimbaud c'est une carrière, finalement, qui a échoué. Raison pour laquelle il sombre, si j'ose dire, dans le silence.
C'est une comète.
Il n'a pas su devenir un écrivain au sens moderne du terme. C'est Verlaine, dans Les Poètes Maudits, un tout petit peu avant d'ailleurs, parallèlement, en 1888, qui réunit Rimbaud, Corbière et Mallarmé, et qui impose définitivement Rimbaud dans la conscience du temps.
Alors, il y a une autre surprise quand on lit ce texte, ces textes, et qu'on voit la date, c'est quand même, parallèlement, bien sûr, ça s'est écrit, ça s'est en plus publié, parallèlement à deux recueils, Sagesse et Amour, qui sont complètement imprégnés de foi catholique, qui ont été publiés par la Société Générale de Librairie Catholique. Donc, comment est-ce que ceux qui lisaient Verlaine, qui achetaient ses livres, comprenaient ce parallèlement, le côté sulfureux et le côté sacristie?
Verlaine a un mot à propos de la nouvelle édition en 1894, c'est dire d'ailleurs que le livre s'est lu de parallèlement. Il dit que c'est l'enfer de mon œuvre chrétien. Mais pour un catholique comme lui, au sens où l'entendait déjà Baudelaire, la nature humaine est double. L'amour est aussi une manière, finalement, de vivre, une manière d'exutoire au mal. Et puis, l'amour charnel, comme l'entend Verlaine, c'est un engagement total, à la fois du corps et de l'âme. L'homme doit être, l'homme et la femme, par la poésie, sont confrontés à l'attrait du plaisir, à la complexité du désir, à la complexité humaine. Donc je crois qu'il ne cesse pas d'être catholique dans parallèlement. D'ailleurs, le mot parallèlement, l'adverbe parallèlement le signifie. Il ne s'agit pas de rejeter, il ne s'agit pas d'être en marge. Il s'agit de montrer des parallèles entre l'œuvre chrétienne et l'œuvre érotique. Les deux infinis se touchent. Et un de ceux qui l'ont le mieux compris, c'est Huysmans. Huysmans qui réserve dans Harbour, en 1884, un long passage à Verlaine. Et Huysmans qui, je pense, aurait aimé voir la rencontre entre Rops et Verlaine, parce que pour Huysmans, l'infini érotique est tout près de l'infini théologique.
Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que la façon dont les vers sont conçus, c'est une école qui n'appartient qu'à Verlaine, finalement. Il a beaucoup emprunté au Parnasse, on le sait, mais là, dans la façon dont les textes, vous disiez tout à l'heure, déhanchés, c'est vrai, personne n'écrit de la poésie comme lui à ce moment-là.
Et Rimbaud l'a compris, l'un des premiers, quand il lit Fête galante, avec ses enjambements, ses coupes, ses césures, ses rimes bizarres. Et s'en est inspiré. Il y a, entre le Parnasse et le symbolisme, une école qu'on appelle l'école de la fantaisie, qui se permet plus de liberté dans la métrique du vers, dans la prosodie, dans l'inspiration, dans les images. Il est un peu de cette école-là. D'ailleurs, il se réclame du XVIIIe siècle. Bonnard l'a très bien compris. Il y a des allusions à Watteau, à Boucher, dans l'illustration de Parallèlement en 1900. Et un certain nombre de poèmes de Verlaine se place sous le signe du rocaille. Un rocaille qui est celui, justement, de la liberté, du caprice, de la fantaisie, du fantasque. Vous avez raison, il incarne cette veine-là mieux que tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait continuer à le lire et le lire davantage. Je trouve que on parle trop de Rimbaud, trop de mon cher Baudelaire, et pas assez de Verlaine.
Eh bien, écoutons-le au moins.
C'est Guidille. Brune, encore non eue. Je te veux presque nue, sur un canapé noir, dans un jaune boudoir, comme en 1830. Presque nue et non nue, à travers une nue de dentelle montrant ta chair, où va courant ma bouche délirante. Je te veux trop rieuse et très impérieuse, méchante et mauvaise et, pire s'il te plaisait, mais si luxurieuse. Ah! Ton corps noir et rose et clair de lune. Ah, pose ton coude sur mon cœur et tout ton corps vainqueur, tout ton corps que j'adore. Ah, ton corps, qu'il repose sur mon âme morose et l'étouffe s'il peut, si ton caprice veut, encore, encore, encore. Splendide, glorieuse, bellement furieuse, dans leurs jeunes ébats, fous mon orgueil en bas, sous tes fesses joyeuses.
L'humeur est vagabonde sur France Inter. Vagabonde sur France Inter.
Stéphane Guégan, c'est 3 ans après la mort de Verlaine, en 1896, que Vollard commence à négocier avec l'éditeur de Verlaine, Léon Vanier, pour racheter ce recueil de poèmes. Il en a tout de suite l'idée d'en faire en fait une œuvre d'art, c'est-à-dire il veut magnifier ses textes, et donc il va se mettre à chercher le peintre idéal. Et il va tâtonner pas mal. Bonnard n'est pas du tout son premier choix.
Non, c'est son troisième choix, mais c'est le bon. Le premier choix, c'est Lucien Pissarro.
L'un des fils de Camille.
D'ailleurs, un des rénovateurs de la gravure et de l'illustration. C'est un bon choix. Et puis, son choix va se porter sur un disciple de Whistler, totalement oublié, mais c'est un choix intéressant parce que Vollard a des raisons de penser que le monde de Whistler est assez proche de celui de Verlaine. Huysmans, d'ailleurs, aimait à rapprocher Whistler de Verlaine. Et puis, c'est Bonnard. Bonnard, dont il est le marchand. Avant d'ailleurs d'être l'homme de Vollard, Bonnard a été l'homme des Natançons, de la Revue Blanche. Il est un grand affichiste. Il est proche de Missia Natançon. Et il y a quelque chose chez lui de féminin. Il y a quelque chose chez lui de sensuel, de voluptueux. En 1893, Vollard, qui a une trentaine d'années, découvre la volupté avec Marthe, la fameuse Marthe.
Bonnard,
pardonnez-moi. Oui. Vollard était aussi un voluptueux. Oui. Vous avez raison, Bonnard découvre la voluptueux.
Oui, c'est un trentenaire, donc il n'est pas encore très célèbre.
Non, il n'est pas encore très célèbre, mais ses affiches l'ont rendu célèbre. Il publie dans la Revue Blanche, on parle un peu de lui. Il expose aussi avec les Nabis, dont vous avez parlé chez Vollard. Et donc, ce Bonnard japonard va faire entrer Marthe dans l'illustration de parallèlement à travers, vous savez, ces photographies qu'on a redécouvertes au musée d'Orsay il y a une vingtaine d'années. Et il y a des transpositions très intéressantes entre les photographies prises par Bonnard, Marthe dans son appartement, Marthe dans la nature, et l'illustration même, comme s'il avait voulu intégrer une forme de vie enregistrée, presque épidermique, pour rendre la teneur des poèmes de Verlaine. Et on peut dire que Vollard était très heureux du résultat. Le choix du rose, l'idéographie rose, c'est un choix de Bonnard. Il l'a dit plus tard à un journaliste. Il lui semblait que le rose s'imposait pour rendre l'atmosphère verlainienne. Mais on a entendu ses guidilles.
Oui, oui, tout à l'heure. Ton corps noir et rose.
Cette magnifique chanson. Voilà, ce corps noir et rose, c'est bien sûr une allusion au quatrain de Baudelaire, le quatrain que Baudelaire écrit pour le La de Valence de Manet, quatrain que Verlaine connaissait. Il a lu Les Épaves en 1866. Et cette atmosphère noire et rose convient très bien à Bonnard lui-même, puisque il adore le petit corps de Marthe. Il adore cette volupté incarnée. Il aime la montrer en corset, en bas noir. Et ce qui est formidable pour le lecteur que nous sommes aujourd'hui, informé, c'est à travers le livre de suivre également la mise en scène des ébats de Marthe et Pierre Bonnard à travers la poésie de Verlaine.
Alors, Marthe, justement, il faut en dire un mot quand même, parce que par exemple, pour ceux qui ont visité le musée d'Orsay, l'Indolente, qui est un tableau absolument sublime, représente Marthe, qui, à partir de leur rencontre, va finir par devenir le modèle exclusif de Bonnard. Or, on voit bien dans les illustrations de parallèlement que Marthe n'avait pas ce corps à la Watteau, justement, rond, épanoui. C'est un petit modèle.
C'est un petit modèle.
Et là, Bonnard, à la fois s'inspire de Marthe, mais il la transpose également.
Il la transpose. Le fait est que le corps a une histoire, disait Roland Barthes, dans sa forme, dans sa façon de se produire, sa façon de se maquiller, de s'habiller. Et il a voulu, je crois, en accord avec Vollard, il a voulu donner un caractère 1900 à l'illustration. C'est-à-dire que c'est à la fois Verlaine regardant le XVIIIe siècle, mais aussi la génération de Bonnard et Vollard regardant Verlaine. Et il y a là une sorte de filiation passionnante. Le livre, à sa date, n'a rien de périmé, ni dans sa poésie, très directe, très franche, ni dans ses illustrations. Oui, le petit corps de Marthe est là, perceptible. Il est métamorphosé également, il est transposé. Il demande à Marthe de prendre des poses, celle de l'odalisque brune, par exemple, de Boucher, tableau célèbre du musée du Louvre à l'époque. Et on ne peut pas ne pas imaginer que Verlaine, qui est mort en 1896, n'ait pas applaudi finalement à cette illustration, car elle correspond à son vœu secret.
Alors, on va écouter Jean-François Debord, qui lui-même est un artiste, parler justement de cette réalité dans le trait de Bonnard. Ça vient de ses modèles vivants.
Il y a une grandeur chez Bonnard. Et il y a autre chose. Parce que souvent, je voudrais tout de même insister sur Matisse, Bonnard. Ils se respectaient énormément. Mais tout de même, chez Matisse, on a envie d'utiliser la phrase de Gauguin, ça pue le modèle, n'est-ce pas? Et Gauguin détestait les dessins nus faits dans des académies d'après des modèles. C'est tout à fait autre chose que de peindre la femme près de laquelle on vit et qu'on regarde très simplement se laver. Donc, c'est pas du tout la même chose que ce côté modèle professionnel qu'on sent parfois chez Matisse. Chez Bonnard, il n'y a pas de modèle. Il y a Marthe, qui a l'air d'être une espèce d'étrange animal, comme ça, se récurant les coins d'ombre pendant des heures et des heures, et son voyeur de peintre et amant qui est là à la guetter et à prendre des petites notes, à prendre ses petits croquis très attentifs sur ses tout petits carnets qui étaient parfois même des agendas, et ça donne de très 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 beaux dessins de simplicité.
Vous êtes d'accord, Stéphane Legrand ?
Absolument. Je n'utiliserai pas le mot voyeur dans la mesure où il y a une complicité. Même à travers les photographies, je comprends très bien l'usage qu'en fait
Jean-François Debord.
Ce que je trouve intéressant, c'est la complicité. On a l'impression tout de même que Marthe lui apporte la vraie volupté, c'est-à-dire elle est d'un autre milieu. Elle est dans un tout autre milieu que
Bonnard
le sien.
Oui, Bonnard était issu d'une famille riche qui le laissait un peu crever de faim, mais enfin quand même. Mais
oui,
elle venait du peuple.
Voilà, ouais. Et où peut-être la sexualité chez les femmes était plus contrainte, où elles se donnaient moins. C'est le grand problème du 19e siècle et du début du 20e siècle. Hein. Pourquoi les hommes, Drieu La Rochelle a beaucoup écrit là-dessus, pourquoi les hommes vont au claque, vont au bordel pour connaître autre chose. Et pas simplement dissimuler leur fantasme. Non, la vérité de parallèlement, c'est aussi cela, c'est-à-dire qu'il y a une complicité dans les ébats. Alors, c'est la raison pour laquelle ce livre devrait être lu aujourd'hui et par tout le monde, puisque c'est véritablement une exploration de la sexualité moderne, consentante, mais qui se donne toutes les libertés, toutes les fantaisies. Et je crois que Bonnard a très bien compris ça. Vollard, qui était un sensuel, l'a très bien compris également. Et je pense que le choix de parallèlement en dit long sur ce marchand qui était Vollard, très atypique, et sur Bonnard.
Et puis, il faut aussi parler de la façon dont Bonnard a illustré ses vers. On parlait tout à l'heure, Stéphane Guégan, de ces vers très très modernes de Verlaine, des rimes qui ne riment pas, des enjambements, des vers déhanchés, certains longs, d'autres très très courts. Et en fait, Bonnard fait la même chose, c'est-à-dire qu'il n'illustre pas le texte de Verlaine, il mêle les dessins au texte, lui aussi enjambe la page, ça s'interpénètre, donc c'est d'une très grande modernité.
Vous avez tout à fait raison, il y a peu d'exemples à l'époque, on pense à Lautrec, dont Bonnard connaît les livres, bien sûr, ils appartiennent tous les deux au milieu de la Revue Blanche, ils sont très proches de Nathan Son. Oui, l'image quitte la marge, le texte et l'image s'interpénètrent, pour le dire comme vous. Alfred Jarry, qui rencontre de parallèlement en 1901, dans la Revue Blanche, parle de culbute. Il dit que les formes, les corps, ces jeunes femmes viennent culbuter le vers, culbuter le texte, sur le drap blanc, dit-il, de la page. Donc il y a, oui, une volonté d'enchasser, une volonté d'entrelacer, qui est dans le droit fil même de la poétique verlainienne.
Alors, cette réédition chez Hazan, c'est une réédition très soignée, c'est un fac-similé. La typographie, le Garamond est respecté, bien sûr. C'est un beau livre, mais qui est accessible, puisqu'il ne vaut que 35 euros. Alors que j'ai eu la curiosité de regarder à combien se vendait dans les ventes publiques le texte original. On est plus près de 50 000 euros.
Absolument, hein. J'allais dire, la fourchette, c'est 40-60 000. Ouais. Il y a 200 exemplaires.
Oui.
Et ils sont très, très recherchés. J'imagine que certains exemplaires comportent des envois. C'est un objet de luxe qu'on met à la portée de tous les amateurs de la grande poésie française et du grand art français.
Alors on va écouter encore pour le plaisir un autre poème de Verlaine, c'est la Ballade de la vie en rouge.
Ballade de la vie en rouge. L'un toujours vit la vie en rose, jeunesse qui n'en finit plus. Seconde enfance moins morose, ni vœux, ni regrets superflus. ignorant tout flux et reflux, ce sage pour qui rien ne bouge règne instinctif, tel un phallus. Mais moi, je vois la vie en rouge. L'autre ratiocine et glose sur des modes irrésolus, sous-pesant, pesant chaque chose de mains gourdes aux lourds calus. Lui faudrait du temps, tant et plus, pour se risquer hors de son bouge. Le monde est gris à ce reclus. Mais moi, je vois la vie en rouge. Lui, cet autre alentour, il ose jeter des regards bien voulus, mais sur quoi que son œil se pose, il s'exaspère où tu te plus, œil des philanthropes joufflus. Tout lui semble noir, vierge ou gouge, les hommes, vin bu, livre lu. Mais moi, je vois la vie en rouge. Prince et princesse, allez, élus, en triomphe par la route où je trime d'ornières en talus. Mais moi, je vois la vie en rouge.
Stéphane Guégan, dans le long texte de présentation de ce livre, parallèlement, qui est paru chez Hazan, vous employez pour Bonnard une expression dont je voudrais que vous me parliez. Vous dites, c'est un impressionnisme repensé.
Oui, parce qu'il y a chez lui la volonté de dire le réel, contrairement à d'autres membres du groupe Nabi qui vont se tourner vers une forme de symbolisme. Parce qu'il a été proche de Monet jusqu'aux années 1920. Il est un des rares à être là au moment de l'enterrement de Monet, en 1926, me semble-t-il. Parce qu'il a été perçu comme tel. Parmi les Nabi, il est à la fois au début celui qui est le plus proche du Japon, son synthétisme, le proche de Lautrec, et puis celui qui va desserrer cette écriture synthétique pour retrouver quelque chose de l'atmosphère, de l'impressionnisme, pour retrouver également quelque chose du fugitif, cette façon de capter le fugitif, le mouvement, la vibration de la lumière, des êtres. Le plus bel hommage qu'on ait rendu, ou l'un des plus beaux hommages qu'on ait rendu à Bonnard, c'est celui de Maurice Denis, sous l'occupation. Ils ont vécu jusque-là. Et en 1943, je crois, Maurice Denis dit que Bonnard, de tous les membres du groupe Nabi, c'était celui qui était le plus proche de la définition que Baudelaire avait donnée du peintre de la vie moderne. Et donc je crois que, pour toutes ces raisons, il est plus proche de l'impressionnisme que du symbolisme.
Mais au fond, quand je vous écoute, Stéphane Guégan, je me dis que Verlaine de son côté, Bonnard de son côté, étaient chacun des héritiers. Ils avaient appartenu un peu à quelques écoles, mais au fond, ils étaient des artistes solitaires, originaux, l'un en poésie, l'autre en peinture, mais chacun ayant, au fond, tracé son propre sillon, à nul autre pareil.
C'est vrai, c'est vrai. Et Verlaine, d'ailleurs, a croisé lui-même les êtres à part, je pense, à Basile, dont il a été, par lequel il a été portraituré. Oui, ils sont seuls. Il a fallu d'ailleurs attendre un certain nombre d'années pour que les Français reconnaissent à Bonnard une place éminente dans le XXe siècle. Je pense à la grande exposition de Jean Clair, qui a fait tempêter la presse dans les années 70-80. C'est véritablement Jean Clair qui a remis en selle ce personnage qu'on avait fini par oublier parce qu'il avait renoncé à être d'avant-garde. Vous avez raison, il a décidé de ne pas être Nabi quand tout le monde était symboliste, il a décidé de ne plus être finalement dans l'abstraction quand tout le monde l'était, ou dans une forme d'abstraction, dans une forme voilà d'épuration formelle. On n'a jamais su où le mettre. Il a décidé de vivre en plus loin de Paris, quelle erreur, dans le sud de la France. Donc il a cherché une forme de solitude. Il est, vous savez, fasciné par Mallarmé. Verlaine est un de ses poètes, mais son poète d'élection, c'est Mallarmé, qu'il lit encore sous l'occupation, à travers les éditions de Mondor. Donc, d'ailleurs, de tous les Nabi, avec Maurice Denis, qui d'ailleurs sera l'illustrateur de Sagesse, il est le plus lettré. C'est aussi une des raisons pour laquelle Vollard l'a choisi. C'est un lecteur. Un lecteur de Verlaine, de Mallarmé, des poètes. Et je crois qu'il a cherché à être un poète en peinture.
Eh bien, merci infiniment Stéphane Guégan d'être venu nous parler si savamment de Verlaine et de Bonnard. Je rappelle que ce très beau livre qui vient d'être édité aux éditions Hazan s'intitule Parallèlement, c'est la réédition d'un texte qui date de 1900. Merci à vous Stéphane Guégan et très bonne année à vous, bien sûr.